Marcel Conche, bonjour.
Oui, je suis très heureux de votre venue ici, à Altillac, dans une maison que je n'aime pas beaucoup, mais qui a tout de même été la maison de mon enfance, du moins des 5 premières années de ma vie. Maintenant, je ne l'aime pas parce que elle a été complètement bousillée par les occupants précédents.
Tout de même, elle est assez jolie, je trouve. En tout cas, merci de me recevoir ici. Et donc, vous l'avez dit, à Altillac, près de Beaulieu-sur-Dordogne. Très joli village situé en Corrèze. Nous sommes actuellement donc au mois d'août 2010. Est-ce la peine de vous présenter, Marcel Conche, si on va le faire un petit peu quand même? Vous êtes né en 1922, vous avez donc 88 ans, vous êtes un philosophe français, donc vous avez publié une dizaine, même plusieurs dizaines de livres, dont on citera Orientation philosophique, analyse de l'amour, aux presses universitaires de France. Vous êtes un spécialiste de Montaigne et d'Épicure, et vous venez donc de sortir Corsica, cinquième tome du journal étrange au PUF. Marcel Conche, donc, vous n'êtes pas trop très médiatique en tout cas. Vous serez content d'apprendre que votre livre Corsica est en rupture de stock aux éditions PUF. Donc, comment est-ce que vous expliquez ce succès, j'allais dire peut-être pas soudain, mais ce grand succès à 88 ans? Est-ce que c'est votre plus grand succès Corsica, Marcel Conche?
C'est-à-dire que c'est probablement mon plus grand succès. L'un de mes plus grands succès, parce que mon premier livre, Montaigne ou la conscience heureuse, avait été lui aussi rapidement en rupture de stock lorsqu'il a été publié chez Segers en 1964, mais cela est lointain. Depuis, il a été réimprimé plusieurs fois aux éditions de Major et récemment aux presses universitaires de France. Mais en réalité, les ouvrages dont je suis le plus satisfait, dont je suis relativement fier, ce sont mes études sur les antésocratiques. Parce que ce sont ces études, c'est-à-dire mes éditions critiques d'Anaximandre, de Parménide et d'Héraclite, qui m'ont valu d'être élu à l'Académie d'Athènes. Parce que ce sont là des ouvrages de référence qui m'ont valu une notoriété internationale. Tandis que Corsica, je pense que ne débordera pas beaucoup les frontières de l'Hexagone et de la Corse.
Mais c'est plus anecdotique, Corsica. Bien sûr. Marcel Conche, au bout de quelques coups de téléphone que nous avons eus ensemble, et en ce qui me concerne, je n'ai pas lu vos livres sur les Grecs, puisque vous êtes en quelque sorte un philosophe qui veut un retour aux Grecs, en quelque sorte, on en parlera tout à l'heure. Et au bout de quelques dizaines de pages donc, que j'ai lues dans Corsica, Confession d'un philosophe aussi, réponse à André Comte-Sponville, paru chez Albin Michel, et dans Analyse de l'amour et autres propos, paru en 97 au PUF, j'ai l'impression que pour vous, philosopher n'est pas du tout stérile. Pour vous, ça doit déboucher sur la vérité de soi-même. Vous aimez les personnes singulières, je cite, comme Émilienne, justement, qui est en filigrane, même qui est le personnage principal avec vous de Corsica. Marcel Conche, ma question, c'est est-ce que vous pensez que les gens qui sont, la majorité des gens qui sont pris dans les filets du conformisme, dans les filets de la collectivité et des systèmes de pensée, etc., est-ce qu'ils ratent leur singularité et est-ce qu'ils ratent leur vie, Marcel Conche?
Eh bien, d'une certaine manière, ils ne ratent pas leur vie si ils ont eu dans leur vie exactement ce qu'ils voulaient avoir. Seulement, il se peut très bien que ce qu'ils voulaient avoir ne se définisse que par des valeurs qui, à mon avis, sont de fausses valeurs, comme la propriété, l'argent, les honneurs, etc. C'est-à-dire que beaucoup de personnes restent des hommes collectifs. C'est-à-dire qu'ils ont été éduqués selon les particularités d'une certaine culture, par exemple chrétienne ou islamique ou autre, et ensuite ils sont restés ce qu'on les a fait. Il est très difficile de devenir singulier. Stirner, vous savez, écrit un livre, L'unique et sa propriété. il a affirmé l'unicité de l'individu. Mais Nietzsche a très bien remarqué que cette unicité était une conquête, et qu'en réalité, la plupart des hommes se ressemblent beaucoup. Autrement dit, pour être singulier et unique, il faut le devenir. C'est-à-dire qu'il faut se libérer des tabous, des règles, des impératifs collectifs pour se ressourcer en soi-même, devenir un individu libéré de tout ce qui est collectif en nous. Et ça, c'est difficile. Par exemple, je dois dire que récemment, j'ai été très fier des résultats qu'ont obtenus nos athlètes aux Jeux de Barcelone. J'ai été très fier en tant que Français. Donc, vous voyez que là, c'est quand même un côté collectif. Et en réalité, c'est vrai que pour moi, c'est quand même un côté secondaire. Mais enfin, il existe. Et sur beaucoup de points, ainsi, je trouve en moi des aspects qui me laissent dans la dépendance de la collectivité. Vous savez, si vous prenez par exemple une tribu d'Indiens d'Amérique, bon, est-ce que, par exemple, un individu Apache, un individu Sioux, un individu Pied-Noir, un individu Cheyenne, est autre chose qu'un Apache, un Cheyenne ou un Pied-Noir? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une individualité? D'une certaine façon, oui, parce que il affirme plus ou moins les valeurs de la collectivité. Par exemple, l'un sera un meilleur guerrier que l'autre. Donc, il y a des différences au sein d'une tribu selon la capacité d'affirmer les valeurs de la collectivité. Mais malgré tout, tout cela est dans les limites d'une culture particulière. L'humanité, en général, n'a connu que des cultures particulières où ce qui dominait était très souvent une religion, d'ailleurs. Par exemple, en Égypte, en général, n'a connu que des cultures particulières où ce qui dominait était très souvent une religion, d'ailleurs. Par exemple, en Égypte, et ce qui est arrivé en Grèce est quelque chose qui a été nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu des individus singuliers, complètement libérés de la collectivité et donc de la religion, car en Grèce, il n'y avait pas de dogme religieux, les prêtres n'enseignaient aucune vérité, les prêtres présider simplement aux cérémonies du culte, c'est tout, de sorte que les enfants étaient libres pour réfléchir de manière absolument libre, pour envisager toutes les hypothèses au sujet de la signification des choses, c'est-à-dire de la signification du monde et de la signification de l'homme. Et c'est ainsi que la philosophie est née, c'est-à-dire que les premiers philosophes ont été d'abord des individus. Et c'est parce qu'ils étaient des individus singuliers qu'ils ont découvert l'universel. Parce que l'individu qui se limite à lui-même tombe dans la liberté absurde d'un Max Stirner. C'est-à-dire que si vous niez le collectif et si vous niez en même temps l'universel, comme le fait Stirner, qui fait fi de la raison, ou comme le fait Nietzsche, qui fait fi de la raison, ils tombent alors dans une liberté qui fait d'eux de purs individualistes. Mais un philosophe ne peut pas être un pur individualiste, parce que, en tant que singulier, ce qu'il découvre, c'est l'universel. C'est ainsi que les premiers philosophes grecs, et en particulier ceux sur lesquels j'ai travaillé, Anaximandre, Héraclite et Parménide, Empédocle, etc., ces premiers philosophes sont non seulement les découvreurs de la philosophie, mais aussi de la science et de la démocratie, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'universel. Par conséquent, pour moi, j'ai choisi de consacrer ma vie à la philosophie. C'est-à-dire que dès mon adolescence, j'ai pris mes distances vis-à-vis des modèles que la société me proposait. Voilà. Par exemple, j'étais destiné à devenir instituteur, mais je ne suis pas resté instituteur. J'étais destiné à devenir professeur. Je suis effectivement devenu professeur, mais en réalité parce que c'était simplement le moyen de gagner ma modeste existence, puisque, hélas, le philosophe n'est pas nourri aux frais de l'État, jusqu'à présent.
Marcel Conge, vous dites que vous aimez la philosophie grecque, on l'a deviné, être singulier. C'est plutôt une philosophie assez tranquille, en accord avec la nature. Il faut des rites, selon vous. Vous me dites si je me trompe, hein, puisque moi je vous découvre en tant qu'auteur. Et je trouve que vous avez une pensée propre à vous, justement. Est-ce que vous ne trouvez pas que certains philosophes, qui se catapultent eux-mêmes philosophes par les médias souvent, ne recyclent pas des vieilles idées ? Vous, j'ai l'impression que vous avez vraiment une pensée originale, fruit d'un vrai travail. Vous dites d'ailleurs que la philosophie, c'est du travail, Marcel Conge.
C'est-à-dire que beaucoup de philosophes se croient philosophes et oublient l'essentiel de la philosophie. Parce que Descartes l'a dit, la philosophie est comparable à un arbre. Un arbre a des racines, il a une tronc. Descartes a dit, les racines de l'arbre, c'est la métaphysique. Le tronc est la physique. Eh bien, beaucoup de philosophes se limitent à l'homme. C'est vrai, c'est bon de s'intéresser à l'homme, mais la philosophie, c'est d'abord la métaphysique, et la métaphysique se définit de quelle manière ?
Justement, Marcel Conche, pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui savent ce que c'est que la physique, en gros, c'est le devant de la scène, le monde, ses lois physiques, justement. La métaphysique, étymologiquement, ça veut dire au-delà, au-dessus de la physique. La physique, en gros, c'est le devant de la scène, le monde, ses lois physiques, justement. La métaphysique, étymologiquement, ça veut dire au-delà, au-dessus de la physique, non ? Vous avez été professeur de métaphysique à la Sorbonne, vous ?
Exactement. Ce que vous dites, c'est que la métaphysique, c'est au-delà de la physique. C'est vrai en ce sens que chez Aristote, ce qu'on appelle métaphysique, c'est bien ce qui vient au-delà des livres de la physique. Il y a les ouvrages qu'on appelle la physique d'Aristote, et dans le corpus aristotélicien, ce qu'on appelle la philosophie première, ça vient après. Mais, pour voir les choses dans leur vérité, la métaphysique, si vous voulez, je vais vous l'expliquer ça très facilement. Supposons que vous soyez chrétien. Eh bien, à ce moment-là, demandez-vous, pour vous, quel est le tout de ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, c'est quoi pour vous ?
Le cosmos.
Pas du tout. Non ? Ce qu'il y a pour vous, c'est Dieu, le monde et l'homme. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a. Quand vous dites cosmos, ça ne vaut que pour le monde. Non, le tout, c'est Dieu, le monde et l'homme. Alors supposez maintenant qu'on n'admette plus l'existence de Dieu. Il est évident qu'à ce moment-là, la notion de monde sera complètement modifiée. Puisque si vous admettez Dieu, le monde est la création de Dieu. Mais si vous n'admettez pas Dieu, alors comment faudra-t-il comprendre le monde ? D'autre part, Dieu, le monde et l'homme, Mais alors, l'homme est la créature de Dieu. Mais si vous n'admettez pas Dieu, à ce moment-là, que devient l'homme? Qu'en est-il de l'homme? Quelle est la vérité de l'homme? Autrement dit, la métaphysique a pour objet la totalité du réel. Et en ce qui me concerne, tout à l'heure vous avez dit que j'étais naturaliste, c'est-à-dire que pour moi, la nature, c'est la totalité du réel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que la nature éternelle et infinie. Là, nous sommes allés un petit peu rapidement, mais vous savez, c'est par là que la philosophie grecque a commencé.
Oui, d'ailleurs, les premiers philosophes grecs, il y a plus de 2000 ans, 2400 ans, je crois, à peu près, dans ces eaux-là, vous allez me dire si je me trompe, étaient des physiciens. D'ailleurs, la physique s'appelait la philosophie naturelle à la base.
Oui, c'est-à-dire que ils étaient des physiciens, dites-vous, en ce sens que dans le mot physicien, il y a le mot physis, physis, le mot grec, physis, c'est-à-dire phi, upsilon, sigma, iota et sigma à la fin. Et cette physis, alors c'est là évidemment la racine du mot physique, mais aujourd'hui la physique ne concerne qu'un secteur de la réalité, c'est-à-dire ce qui s'offre à l'expérience et à la méthode expérimentale, et la physique ne concerne pas la totalité du réel. Donc Anaximandre était un physicien, mais en ce sens, au sens où il s'agissait de la totalité de la nature, pour lequel il emploie le mot apeiron, c'est-à-dire infini. Infini est omni-englobante, c'est-à-dire englobant absolument tout, et omni-génératrice, c'est-à-dire que dans la nature, selon Anaximandre, la physis produit des sortes de germes qu'il appelle gonimoi. De chaque germe naît un monde. Autrement dit, Anaximandre admet une infinité de mondes, et cette idée de l'infinité de mondes se retrouve chez Démocrite, chez Épicure. En ce qui me concerne, j'admets une infinité de mondes, mais même en un sens encore élargi, c'est-à-dire que je considère par exemple que chaque être vivant vit dans son monde, que par exemple le hérisson vit dans son monde, l'abeille dans son monde, le rat dans son monde, et l'homme alors me direz-vous. Ah, alors il y a une grande différence entre le monde dans lequel vit un animal et le monde dans lequel vit l'homme, parce que les mondes animaux sont des mondes clos. C'est-à-dire que l'animal ne peut pas en sortir. C'est-à-dire qu'un hérisson ne peut absolument pas se figurer ce que ça peut vouloir dire d'être une abeille. Tandis que l'homme pense, et ça, c'est la nouveauté radicale, la pensée. Les animaux ont la conscience, mais pas la pensée. Les animaux ont la conscience. C'est-à-dire qu'ils s'éveillent et ils dorment. Or, être éveillé et être conscient, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un chien, par exemple, il y a des moments où il dort, il y a des moments où il s'éveille et où il est relativement conscient. Je ne dis pas conscient de soi. C'est-à-dire qu'un chien n'a pas de moi. C'est-à-dire il ne dit pas moi, mais dort. C'est le maître qui dit. Qui parle de Médor. Mais que Médor soit Médor, Médor n'en sait rien. Mais cependant, il est conscient, mais d'une conscience qui est privée du rapport à soi-même, c'est-à-dire du moi. Alors, chez l'homme, il y a cette conscience qui enveloppe le rapport à soi, mais il y a de plus, il y a la pensée, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience que les choses sont. Et par exemple, si vous voulez, un Moi, j'ai des petits chats, d'ailleurs, ils ne sont pas à moi, mais ils m'ont choisi.
J'en ai vu un tout à l'heure, un
Oui,
blanc
il
et...
y en a, il y en avait plusieurs derrière. Et alors, ils voient, n'est-ce pas, les choses que je leur donne. Par exemple, récemment, je leur ai donné, par inadvertance, des petits choses à la tomate, des petites choses qu'on appelle, le nom m'échappe actuellement, je leur ai donné cela. Alors, l'animal voit cela, il voit que cela est bon, mais il perçoit seulement la signification que cela a pour lui. C'est-à-dire, un animal ne peut pas constater simplement que quelque chose est. Tandis que l'homme dit cela est. Mais un animal, par exemple une abeille, au milieu des fleurs, ne saisit des fleurs que leur signification abeille, si vous voulez. Tandis qu'un oiseau perçoit des significations oiseau, c'est-à-dire ce que cela veut dire pour un oiseau. Mais ils n'ont pas la conscience de la réalité objective indépendante de deux.
Fin de la première partie d'une série de plusieurs émissions avec Marcel Conche, philosophe. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.